Donc, à présent, on va entamer l'interview de Manuel Corilen, qui est avec nous de passage, venant de Genève, où il est allé exposer déposer des rapports sur la situation de discrimination ambientale qui se passe au Chili, notamment dans les communautés Mapuche, au sud du Chili, avec à la fois les décharges publiques, ce qu'on appelle basurales, et les sites de traitement d'eau par des produits chimiques qui polluent également gravement et contaminent. Donc voilà, on va donc lui poser un certain nombre de questions. C'est Nestor qui va les poser. Fabien va traduire et voilà, il est notre interprète aujourd'hui, Fabien Le Boniek.
Bien, et je voulais rappeler que si vous voulez faire passer des questions à notre invité, on a le 01 43 71 89 40 comme téléphone, et vous pouvez poser directement des questions à notre invité si le sujet vous intéresse. Voilà, et je répète, 01 43 71 89 40. Bon, je ferai les questions et on aura un interlocuteur, Fabien Le Boniek, qui nous accompagne contentement. Et on va à commencer à questionner à notre ami Manuel pour qu'il nous explique un peu la raison de son voyage.
Commencer pour qu'il nous explique un peu la raison de ton voyage ici.
À Paris.
Oui.
Bien.
En Europa.
Bien. Gracias por la oportunidad. Ojalá hubieran muchas radios libertarias, especialmente allá en la novena región.
Je tengo que traducir. Manuel remercie pour l'avoir invité. Il aimerait qu'il y ait des radios libertaires dans la 9e région, dans le sud du Chili.
Bien, ahora la respuesta. Vine a Europa en ocasión de que Chile va a ser examinado en el Comité contra la Discriminación Racial aquí en Ginebra, a raíz de una denuncia que hicimos comunidades mapuches, que tenemos el problema de basurales en nuestras comunidades y plantas de tratamiento de aguas servidas también. La mayoría de los basurales están en comunidades mapuches, en la novena región, en Chile. Y la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas servidas también, y las plantas de tratamiento de aguas servidas son las peores del país, y están desplazadas, si no en nuestras comunidades, aledañas.
Manuel explique qu'il est venu à Genève car en fait il y a la situation du Chili qui va être examinée au comité sur les discriminations raciales de l'ONU, notamment à cause d'une plainte qui a été déposée par les communautés mapuchées du sud du Chili pour la présence de décharges publiques dans leur communauté et aussi d'usines de retraitement d'eau. Et donc Manuel signale que la majorité de ces usines de traitement d'eau et de décharges publiques sont dans les communautés, la majorité de ces sites dans le sud du Chili sont implantés dans les communautés mapuchées, et notamment les questions de traitement d'eau sont faites avec des produits chimiques.
Manuel, je pose une question bien précise. À quelle distance des habitats des familles mapuches on peut trouver les dépôts de l'eau?
Bueno, los que yo conozco personalmente, que es mi comunidad, Boyeco, por ejemplo, hay gente que vive muy cerca de ahí. En Nancue, precisamente, está a 100, 150 metros la familia más próxima, pero antes que se fuera una familia que vivía casi en el deslinde, prácticamente vivía con la basura. Y eso ocurre en Boyeco también. Hay una familia a 200 metros del basural y un colegio muy cercano, un colegio básico.
Donc Manuel parle de deux cas bien précis qu'il connaît bien, c'est ceux de Boyeco, qui est donc la décharge de Temuco, et celui de Nankawe, décharge de Gorbea. Dans ces deux cas-là, il y a des familles qui vivent à 100-150 mètres de la décharge, et il explique qu'avant elles habitaient encore plus à la limite, mais elles ont été déplacées, enfin elles se sont déplacées, et donc dans le cas de Boyeco aussi, on trouve des familles à 200 mètres de la décharge, et ainsi que pas très loin non plus un collège.
Comment est-ce que l'agriculture vivière aux autres peut être affectée pour cet état de choses?
Comment affecte l'agriculture quel impact sur l'agriculture?
El impacto es tremendo porque además de tener poco espacio donde cultivar, estos están contaminados ahora. Hay gente que produce algunos frutales, por ejemplo, u otro tipo de cultivos, y no los puede vender, se queda con la producción, porque están muy cercanos al basural, y si la gente que son eventuales compradores se enteran de eso, es obvio que no pueden vender sus productos cuando hay excedentes. Y si no, también sufrimos las consecuencias porque los animales van allá a carroñar, qué sé yo. Es una situación para nosotros muy muy grave.
Donc l'impact sur l'agriculture est important, d'une part parce que déjà il y a un problème dans les communautés, c'est qu'il y a beaucoup et peu d'espace pour maintenir son agriculture, un peu d'espace de terre, et en plus donc avec c'est la contamination touche les produits que on essaie d'aller vendre en ville et qu'on sait que ces produits sont faits près d'une décharge, les personnes veulent pas les acheter. Donc il y a ce problème là et il y a le même problème avec les animaux qui vont évidemment aller se nourrir dans la décharge et qui peuvent attraper aussi des maladies ou enfin ça peut poser des problèmes.
Depuis combien de temps se produit cette situation? Depuis combien de temps?
Desde cuánto tiempo se está produciendo todo esto?
Digamos de décadas. El basurero que está en nuestra comunidad tiene más de 30 años. Por ejemplo. Hay otros de 10, 15 años. Es un problema de larga data.
Donc il explique que c'est quand même des problèmes assez anciens puisque ça peut aller à 30 ans, 10, 15 ans dans d'autres situations.
Et les autorités chiliennes qui sont responsables de la santé et aussi des problèmes écologiques ou environnementaux, quelles sont les réactions de ces organisations?
Les autorités chiliennes qui se préoccupent vraiment de la santé de tous ces réactions.
Las autoridades en general al principio quisieron desconocer el problema y pasado el tiempo han reconocido algunas cosas, por lo menos que los basureros existen. Pero siempre han justificado la situación diciendo que la basura hay que tirarla en algún lado, por ejemplo. Y que si se pone un cerco, se pone un polietileno por aquí, otro por allá, el problema se va a solucionar. Realmente no hay muchas respuestas positivas, más que esas no hay.
Les autorités, dans un premier temps, ont voulu nier le problème des décharges dans les communautés. Puis, au fur et à mesure du temps, évidemment, ils ont été obligé de reconnaître l'existence de ces décharges dans les communautés, mais elles essayent de justifier cette présence en disant de toute façon il faut bien la laisser quelque part, il faut bien mettre ces déchets quelque part, et d'autre part ils essayent de régler le problème en disant bon bah voilà, on va régler en mettant on va fermer ces décharges, on va mettre des grillages pour pas que les animaux passent et tout ça, mais c'est vraiment des solutions qui n'en sont pas assez. Mais c'est ces propositions que font les autorités publiques.
Et les autorités chiliennes ne répondent pas à vos demandes, mais la plante que vous avez mise à la Convention contre la discrimination raciale, elle a été mise quand?
La querella que pusieron contra en la Comisión de Discriminación Racial, ¿cuándo se puso, cuándo se interpuso esa querella, esa demanda?
Fue en enero del 2007.
Bueno,
sí, fue la fecha en que se hizo la denuncia.
Janvier 2007.
Voilà, dans cette année... D'année en année, n'a pas eu de réponse, n'a pas de gouvernement chilien ou de la Commission.
On a réponse du gouvernement chilien, non?
Non. Bueno, sabemos que el Estado chileno hizo un informe para el comité precisamente a última hora, pero no responde precisamente a algunas interrogantes que se le hizo de parte del comité al mismo Estado. Referente a si los basureros y las plantas de tratamiento de aguas servidas para instalarlas habían cumplido algunos requisitos como la consulta a las comunidades, por ejemplo, si se han hecho estudios de las aguas, por ejemplo, para saber si estas están contaminadas. Esa respuesta no la sabemos.
Donc il n'y a pas vraiment eu de réponse du gouvernement. Enfin, il en a fait une au dernier moment là cette année. Il en a fait une rapidement, mais il n'y a pas une réponse claire sur des questions. Enfin, sur des questions bien précises qui étaient posées dans cette plainte, dans cette demande, qui était notamment de savoir si il y avait eu des études qui avaient été faites auparavant, avant d'installer par exemple les usines de retraitement d'eau dans les communautés. Si on avait demandé l'avis aux communautés avant d'installer ces usines, si on avait fait des études sur l'eau, voir quel était l'impact sur l'eau des communautés de la présence soit des décharges, soit des usines. Donc à ces questions bien précises, le gouvernement n'a jamais pu répondre. Donc voilà.
Non, concrètement, il n'y a pas d'études sur les conséquences pour la population qui habitent dans ces régions-là. Combien de personnes sont touchées dans la région avec ces problèmes-là?
Concrètement, il n'y a pas d'études sur cette situation, digamos, de los basurales, de la planta de tratamiento. Et quantas personas están tocadas, digamos, por estas situaciones?
En el caso de las plantas de tratamiento de aguas servidas, esa es la pregunta. No se han hecho estudios definitivos acerca del resultado del sistema de tratamiento que se emplea, que es el más malo de la región. Y se calcula que hay como 50 comunidades afectadas, de una u otra forma, por el vertimiento de químicos en el tratamiento del sistema primario que se utiliza para las aguas servidas.
¿Por basural?
Y por basural, bueno, hay una cifra similar de comunidades afectadas, alrededor de 50.
No. Ce qui explique Manuel, c'est que dans les cas donc des usines de retraitement d'eau qui utilisent une méthode de retraitement par produits chimiques qui est l'une, alors il pourrait peut-être un peu expliquer après, mais il y a plusieurs manières de traiter, c'est vraiment la manière la plus mauvaise qui est utilisée au Chili, enfin dans justement dans le sud du Chili, dans ce cas-là, on utilise la méthode la plus mauvaise, et donc ça affecte une cinquantaine de communautés. Il disait qu'on pouvait trouver plus ou moins le même chiffre au niveau des décharges dans les communautés.
Bien, et concrètement, il y a un problème sanitaire où non plus il y a eu des intérêts de la part du ministère de la Santé de s'intéresser à éclaircir la situation. Parce que, je me pose la question, c'est une région qu'il pleut beaucoup là-bas, non? Il y a beaucoup de pluie?
Elle pregunta si hay mucha lluvia en esa región, si hay una...
Sí, es una zona muy lluviosa.
Entonces, ¿eso significa cómo es que vos soltés l'eau de comunidad por la consumación?
¿Cómo sacan el agua para consumir la comunidad?
Bueno, en estas comunidades la mayoría no hay sistema de agua potable, así es que tienen que abastecerse de pozos, norias, hasta de los ríos. Y estos generalmente están contaminados por los basurales. La contaminación, los líquidos percolados escurren hacia las fuentes de agua.
Emmanuel explique donc en effet qu'il pleut beaucoup dans le sud du Chili et qu'il n'y a pas toujours des réseaux d'eau potable dans les communautés, enfin c'est très rarement d'ailleurs, et donc on utilise des puits, on prend l'eau dans les rivières, dans les ruisseaux aussi, et donc tous ces moyens de prendre de l'eau, et ben ne peuvent être contaminés par la présence des décharges dans les communautés. Hein.
Il y a donc après de vos impressions, on dirait qu'il n'y a pas aucun contrôle, et on peut pas savoir si l'eau que la population de ces communautés Mapuche consomme, ils sont de bonne qualité ou qu'ils sont vraiment contaminés. Il n'y a pas une étude, il n'y a pas aucun élément d'analyse pour pouvoir savoir dans une région qui est contaminée comme ça. N'a pas de.
Bueno, lo deseable sería que la autoridad hiciera esos exámenes. Es químicos de agua.
¿Vos habéis demandado? ¿Vos habéis demandado a las autoridades?
¿Pidieron a las autoridades que
sí, es una de las peticiones que hemos estado realizando, pero hasta ahora no se ha hecho ninguna de parte del Estado, salvo una que realizó la Universidad Católica, en que resultó manifiesta contaminación de aguas de algunas fuentes del basurero Boyeco. Hay fuentes de agua muy contaminadas que no pueden ser consumidas por animales ni por personas, obviamente. Tiene mucha carga contaminante. Es un científico, es un examen serio científico.
Emmanuel explique qu'en effet ils auraient voulu que les autorités puissent faire des tests d'eau, enfin puissent voir faire des études sur l'eau. Ils l'ont demandé aux autorités, ça n'a pas fait. La seule étude dont il a la connaissance qui existe, c'est une étude faite par l'Université catholique de Temuco sur l'eau autour de Boyeco, donc de la décharge de Temuco, où on s'aperçoit qu'il y a des produits contaminants dans l'eau que boivent les habitants des communautés près de la décharge.
Bon, n'a pas de réaction de la part de l'État, n'a pas de rapport officiel. Donc, le rapport que vous avez rendu à la Commission contre la discrimination raciale a été déposé. Quelle a été la réception que vous avez reçue dans cet organisme international, de la Commission?
De la Commission, comment fue?
Bueno, no hemos tenido un pronunciamiento oficial, digámoslo así, del comité, esa es la pregunta. Porque precisamente no se va a revisar la situación. Hemos sí tenido contactos de algunos de algunas personas que trabajan en las oficinas de las relatorías, digamos, y nos han prometido que van a hacer seguimiento al caso. Hemos más bien tenido estas entrevistas informales, pero hay disposición para hacer un seguimiento a estas denuncias.
Donc, donc ils n'ont pas vraiment de réponse officielle, étant donné que le rapport ne va pas être encore discuté enfin, lors de ces sessions-là, mais ils ont quand même eu des discussions avec le secrétariat de rapporteurs qui l'ont assuré qu'il y aurait un suivi, qu'il y avait une préoccupation, et donc il y a eu des discussions informelles qui montraient qu'il y avait vraiment un intérêt pour cette situation.
Je voulais intervenir, Pero, la documentation fue déposée, comment dire, entregada hace un 18 meses a este comitato, ¿no? Et me parece que tu me que dijeron que es necesario de traducir toda la documentación en diferentes lenguas antes de estudiarla, ¿no? ¿Es la respuesta?
Sí, bueno, claro, la secretaría del comité respondió eso cuando requerimos la explicación, claro, acerca de qué iba a pasar con la denuncia, ¿no? Entonces, ahí supongo que es normal de que los integrantes del comité, los expertos, puedan tener conocimiento del documento antes de pronunciarse. Y eso requiere tiempo,
sí,
y para traducirlo también.
Tenían
A los idiomas respectivos.
Tenían 18 meses para hacerlo. O sea, es una burocracia terrible. Ok. Tu peux traduire.
Ouais,
disculpe de intervenir.
Lise, qui pratiquait son espagnol, elle me demandait la raison pourquoi il ne va pas être discuté lors de cette session-là, la plainte qui vient d'être déposée donc, par ces communautés. Et donc le secrétariat a expliqué officiellement la raison, c'est que ça n'a pas été traduit. Ça n'a pas été traduit dans toutes les langues, donc enfin Manuel comprend tout à fait qu'on puisse enfin qu'on ait ces besoins, que étant donné que c'est des personnes de différents pays qui vont étudier la question, que ça soit d'abord traduit dans différentes langues, mais c'est vrai, ça fait 18 mois, comme disait Elise, ça fait beaucoup quand même, c'est beaucoup de bureaucratie, et je pense qu'il doit y avoir aussi une échelle de préoccupation, c'est sûr, quand
sí, pero
d'autres questions ou d'autres commissions, à mon avis, eh ben, on a plus de moyens pour faire les traductions que dans ces commissions-là.
Un año más para que. Et c'est sûr que ça va faire 2 ans et demi. Ah, c'est...
Okay. Il y a Janine qui va intervenir. Là.
Moi, bonsoir. Moi, je voudrais dire quelque chose, mais si j'ai bien compris, de toute façon, déjà à cette session, le Chili, malgré tout, a été appelé, donc a déjà une accusation. Donc, même s'il n'y a pas eu toutes les traductions, etc., le Chili déjà est accusé. Donc, officiellement, ça devrait être quand même examiné, puisque le Chili est accusé dans cette session.
Porque está el Chile en esa sesión.
Bueno, se iba a considerar el caso de Chile, estaba en la tabla de esta sesión, se le había solicitado que enviara informes y tenía al Estado chileno, tenía plazo del 30 de junio que pasó recién. Y el Estado chileno respondió a última hora y no sé si fue una maniobra, ¿no? Y nos descolocó. Entonces, por esa razón se sacó a Chile de la tabla del programa.
C'est trop facile.
Donc Manuel explique qu'en fait le Chili était en effet prévu sur le programme de ce comité. Il devait intervenir et devait défendre ses positions. Il avait jusqu'au 30 de
junio.
Il avait jusqu'au 30 juin pour donner son rapport. Il l'a donné un peu tardivement et du coup c'est pour ça que ça a été annulé, parce que justement on n'avait pas, notamment pour les questions de traduction, on n'avait pas le temps d'étudier, traduire le rapport. Donc la présence du Chili est annulée et donc Manuel, très innocemment, se pose la question si c'était une manœuvre ou pas de la part de Chili pour pas avoir à répondre de ces situations-là.
Bah, vu le temps qui se passe, etc., moi, ça me paraît évident, oui, que ce sont des manœuvres dilatoires pour reculer.
Fue muy oportuna, la verdad.
Bon, on connaît la politique un peu de gouvernement de Bachelet, hein. Il a toujours un silence, ou ne répond pas, ou bien par la fuite, mais jamais fait face aux questions directes qu'on les pose sur des problèmes qui sont liés au Mapuche. Voilà. Et pour conclure sur le sujet, est-ce que ces rapports que vous avez préparés, vous l'avez laissé dans le secrétariat, et il va être traité les prochaines années, dans quel mois?
Est-ce qu'informé, ils vont discuter le prochain année, ils vont...
Bueno, tenemos ahora harto tiempo para responder al informe que Chile presentó. Está dentro de las posibilidades que tenemos de hacer un contrainforme. Seguramente Chile va a presentar un informe muy hermoso, porque hay ley indígena, por ejemplo, hay una CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, es muy bello el nombre. Hay un gobierno democrático, hay tantas cosas buenas en Chile, entonces seguramente de eso va a hablar el Estado chileno. Pero nosotros tenemos también que decir algo sobre eso, y tenemos tiempo bastante para hacerlo.
Ouais, en fait, ce qui explique, c'est que donc il leur reste au moins du temps pour pouvoir répondre à ce rapport donné par le Chili, et ils ont la possibilité donc de faire un contre-rapport par rapport aux réponses qui ont été données par le Chili. Et bon, ils se doutent que le rapport contiendra les choses classiques, de dire que bon, le Chili est de nouveau une démocratie, qu'ils ont une corporation nationale de développement indigène avec ce joli nom et tout ça. Mais eux, ils attendent des réponses plus complètes, et enfin ils attendent aussi de pouvoir répondre à ce beau paysage qui est souvent dépeint dans les rapports officiels.
Et bon, la réponse à Chili, vous l'aurez peut-être dans un moment bientôt, la réponse du gouvernement chilien.
Oui, la réponse à Chili à son informé.
A ver, Chile habría respondido ya, pero no ha respondido a las preguntas precisas que el comité le hizo respecto de la participación de las personas, la participación ciudadana, la opinión de la gente. Sobre eso no ha respondido. Hasta donde sabemos no ha respondido sobre eso. El informe es largo, tiene muchas páginas y habla de todo lo bello que pasa en Chile, seguro.
Donc le Chili a répondu avec un gros dossier, mais il n'a pas répondu aux questions concrètes qui sont posées par le comité, notamment sur la participation citoyenne, la participation des Mapuches dans les prises de décision quand on parle de ces décharges ou de ces usines de retraitement d'eau.
Oui, c'est intéressant parce que justement même la loi indigène chilienne qui a été promulguée en 2003, si je ne me trompe pas.
93.
En 93, je vous fais 10 années. En 93, c'est une loi aussi qui indique que rien doit se faire dans les régions Mapuche sans la discusión y la corde con un tema mapuche. Cela est répété aussi pour la convention 169 de l'OIT. C'est la même chose. On peut pas rien faire dans des projets d'exploitation ou quelque chose que ce soit dans le territoire mapuché sans l'accord de la communauté et de la population mapuché qui habite dans la région. Et pour ce qui est un document, c'est l'accord final de la question de droits de l'homme des Nations Unies qui, en septembre 2007, le 13 septembre aussi, elle a accordé, approuvé un une résolution sur les sujets des droits des peuples indigènes et tibou. Donc, il y a trois documents, soit nationaux ou internationaux, et les trois, ils sont complètement bafoués.
Et les trois sont comme violés.
Bueno, es absolutamente cierto eso. Pese a que Chile, por ejemplo, firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, como acaba de decir. El convenio 169 votó favorablemente el Congreso por ese convenio y falta ser ratificado por la Presidenta de la República. Pero yo quisiera saber de qué nos sirve a nosotros que me explicara eso.
Donc Emmanuel dit effectivement, Nestor a tout à fait raison. Le Chili a signé cette déclaration des droits des peuples indigènes des Nations Unies. Le Congrès chilien a, il y a quelques mois, voté la convention 169. On n'attend plus que la présidente de la République ratifie cette convention-là. Ce qui pose, ce qui crée des, je sais pas si c'est des rires ou des pouffements ici.
Il faut dire que la France refuse de la signer la convention 169 quand même, hein.
Donc, enfin, Manuel se pose la question, il dit, à quoi ça sert tout, pour nous, à quoi ça nous sert tous ces textes-là?
S'ils ne sont pas respectés.
Voilà. Donc, la violation.
Je pense que c'est quand même important. C'est pour ça que nous, on fait une campagne pour que la France ratifie la Convention 169 de l'OIT. Je pense que c'est quand même important parce que ce sont des instruments juridiques. Et s'il n'y avait pas ces instruments juridiques, ils auraient du mal à saisir, par exemple, la Commission interaméricaine des droits de l'homme ou à saisir les Nations Unies. Parce que pour saisir toutes ces instances internationales, il faut s'appuyer sur une base juridique. Donc, même si ces instruments juridiques ne sont pas respectés, au moins ils servent pour pouvoir faire les réclamations.
Bueno, yo no sé si se puede hacer esa gestión. Si entendí bien, podríamos pedirle al gobierno francés. ¿Sí? No,
es que dice que está haciendo una comparación con acá. Diciendo que acá el Estado también tampoco tenemos ratificado el convenio 169. Y entonces puede ser que es importante de presionar a los Estados para que cada Estado.
De todas formas, es muy importante, porque si ustedes no tienen derechos oficialmente, sea derechos en la Constitución de Chile, sea el convenio 169 de la OIT, no se puede llegar hasta, por ejemplo, la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o entonces las Naciones Unidas. Hay que tener instrumentales de derecho para llegar hasta las Naciones Unidas. Entonces, pelo menos, se puede apoyar en eso.
Claro, eso estaría perfecto. Chile suscribió la Convención contra el Racismo, contra todas las formas de racismo. Sin embargo, nosotros estamos siendo discriminados por nuestra condición. No solo en el tema ambiental, preciso en los temas esto de la basura y las plantas de tratamiento de agua servida. Se nos aplican leyes especiales a nosotros. Cuando reivindicamos nuestros derechos, se nos acusa y se nos aplica leyes especiales que vienen de un régimen totalitario. Entonces, Chile parece estar siempre dispuesto a firmar documentos, convenios, tratados, pero no está dispuesto a cumplirlos. Porque en Chile tenemos la ley indígena, como ya decía. Tenemos la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que debe aplicar esta ley, ¿no? Está mandatada que se aplique. Tenemos un gobierno también, entre paréntesis, democrático, muchos gobiernos democráticos, demócratas y cristianos, socialistas, dos gobiernos socialistas. Y para ponerle la guinda a la torta, tenemos una primera mandataria. Entonces deberíamos ser los más felices del mundo. Entonces, pero no hay intención de cumplir el derecho para con nosotros. El que se nos escuche, el que se nos atienda, el que se tome en cuenta nuestra opinión, nuestro consentimiento, debiera ser algo tan elemental, tan básico, como levantarse en la mañana y lavarse la cara. En cambio, nosotros tenemos que venir acá a Ginebra, tenemos que venir a Europa para venir a buscar esos derechos tan elementales que se nos niega. Esenciales, por cierto, y no es reciente, eso es parte de nuestra historia. Es una manifestación nomás del trato que nos ha dado siempre el Estado. Tratar de ignorarnos, de anularnos, de no reconocernos. Eso fue muy largo.
Ah, mais c'était très long, mais très intéressant. Pour revenir donc sur cette discussion sur la convention 169, sur ces lois qui sont signées par le Chili, Emmanuel dit que ça serait évidemment parfait si le Chili respectait tous les textes qui signe, et il signale notamment que le Chili a signé la convention contre le racisme et contre tous les formes de racisme et de discrimination, et pourtant au Chili, les Mapuche, enfin eux, ils se sentent discriminés pour leurs conditions, non seulement au niveau environnemental, comme il vient de nous l'expliquer, mais également parce qu'on est comme beaucoup des auditeurs ici doivent le savoir, on applique des lois spéciales qui datent de régimes totalitaires, la loi antiterroriste pour les dans le cas des dirigeants et des membres des communautés, des militants qui luttent pour les terres et leurs droits politiques. Le Chili est toujours prêt à signer plein de textes, plein d'accords, des conventions, des pactes et compagnie au niveau international. Mais il est pas prêt à les respecter. Manuel revient encore une fois en disant oui, évidemment, il y a la CONADI, il y a des lois qui sont censées nous protéger, il y a des lois d'environnement aussi qui sont censées protéger les gens des différents projets qui sont faits dans les communautés. Il y a des gouvernements démocratiques qui sont succédés au Chili avec des socialistes, des démocrates chrétiens. Et la cerise sur le gâteau, c'est une présidente chilienne. Donc on pourrait penser que tout va bien pour eux, et pourtant ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas du tout il y a une discrimination, il n'y a aucun respect, on ne les écoute pas. Il explique ça, il dit qu'un geste aussi simple d'écouter, comme on pourrait se lever le matin et se laver la figure quand on se lève, là même ce geste simple d'écouter les communautés n'est pas respecté. respectés et ils sont c'est quelque chose d'élémentaire et ils sont obligés de venir jusqu'ici à Paris en Europe pour se faire écouter et ça fait partie de leur histoire ça fait partie de cette histoire mapuche cette longue histoire de non reconnaissance et de négation et voilà c'est un peu ça ce qu'a dit
je crois que tu as bien précisé la réalité telle que vous la vivez et comme beaucoup de gens qui on est
tu
proche
bien la réalité comment
qui on est informé on comprend très bien la façon dont toi tu t'exprimes parce que c'est vrai que c'est un peu scandaleux
qu'il
soit nécessaire de venir en Europe à taper les portes des commissions des droits de l'homme, des commissions contre le racisme, pour pouvoir dire nous existons et nous demandons nos droits. C'est vrai que c'est scandaleux quand on sait qu'il y a un gouvernement théoriquement démocratique. Avec une femme qui appartient à un parti qui a une longue histoire de gauche, le Parti Socialiste Syrien, c'est le Parti Salvador Allende. Oui, voilà. Et tout cela fait un ensemble de choses qu'on pourrait imaginer qui ne pourraient jamais exister au Chili. Mais le concret, c'est que toi, tu es là, et beaucoup d'autres déjà mapuchés, beaucoup de Guéquens sont en théologie à passer pour les Nations Unies, continuer la lutte pour dire nous existons, respectez-nous. Je crois que c'est un peu ça la leçon que j'apprends avec ton intervention.
Merci. Et pour ça, nous avons une question ici, et pour ça qu'elle entend très bien ce que tu estás diciendo.
Voilà, je propose un petit peu de musique pour continuer ton émission, toujours à Radio Libertaire 89.4, Radio Libertaire, Tribune Latino-Americana, tous les samedis, chaque 15 jours, numéro de téléphone au studio, 01-43-71-89-40, Tribune Latino-Americana.
Orgullosos por lo que fuimos. Por lo que somos y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos. Si no nos rendimos ante el genocidio galopante que avanza pasos agigantados sin medir consecuencias. Si no nos rendimos ante tanta maquinaria aniquiladora de sueños, de esperanzas. Si no nos rendimos ante el imperio del despojo, de la usura y de la muerte. ¡Ya, ya, ya!
Hace más de 500 años levantamos que nos agachamos. El dueño frente al buen castado, el mismo que mucho nos ha robado. Para poder callarme no bastan las armas ni las balas, porque yo traigo el nehuén de mi caballo y de mi lanza. Hermano, escucha el año que vamos que nos prepara, para poder hacerle frente al extranjero que ya no para. No te dejes amedrentar por la mentira del que te engaña. Guíate por tu nehuén y el afán que te acompaña.
La fortaleza de nuestro pueblo nunca ha caído. Con la fuerza de corazón siempre ha resistido. Bajo represiones hemos dado la batalla. Yo soy mapuche resistiendo vaya donde vaya. Levantando mi cultura, vida en los corazones, junto con mi asofuana y esos huica ladrones. Pero paso a paso yo me he mantenido firme, bajo los yugos del gobierno nunca voy a rendirme.
Resistencia en memoria de nuestra gente, de los caídos en la lucha y de los que aún siguen presentes. De aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Cuando cambio para que nuestras próximas generaciones no sufran lo que hemos vivido, pero de discriminaciones.
Un país,
mis ancestros lucharon hasta su muerte por defender nuestra mapu y a nuestra gente. Quisieron eliminarnos y no pudieron. Cambiaron nuestro nombre y apellido no pusieron. Muchos cayeron en batalla y otros resistieron. Y esos otros se levantan como un grito de guerrero. Estratégico misión guía nuestro batallón. La represión está temblando con nuestra organización.
We're coming to
está empullado.
¿Cómo duele, hermano? Verdes en las y jugados y colonos en tu mapu. Con tu vida están lucrando, están matando. Pero el pueblo milenario no acallando, se está luchando. Amor por mi gente, resistencia, pueblo en vigencia. Sangre, tierra, fuerza, la cultura y la creencia. Lo que ha mantenido nuestra gran presencia. Mapuche en nuestras tierras, mapuche en nuestra esencia.
Me presento, me llaman que coge el micro para contarte el escenario que estamos viviendo. Digo lo que siento, canto lo que veo, la presión que estoy sufriendo como pueblo mapuche oprimido, resistiendo. Muchos han intentado reducir esta nación con golpes, requisiciones, robo, engaño, usurpación, matanza paulatina, evangelización. Es lo que pasa con mi gente, con el pueblo nación.
Resistencia mapuche es lo que hoy no para, porque la fuerza de nuestro pueblo o ninguna ya se compara. No tengas miedo, ven y de alzar la voz si sientes rabia frente al sistema chileno. Coñatete contra tu raza, Marichueo. Diez razas venceremos y nos levantaremos, como un solo pueblo lucharemos. Rápidamente aplastaremos, mostraremos el Nehuen. Huichatuay con tu peli, Huichatuay la mierda.
Resistencia es lo que está vivido muchos años. No volveremos a aguantar y sufrimiento y engaño. Nuestra gente mapuche se está preparando para expulsar al buen gran tregua que la tierra está usurpando. El Kimu mantiene vivo el canto del Peumape. El Raquipaso tiene el noche canto del Huaychafe. El Azmapu mantiene el Kimu del Kimchefe. El Aguantuay con mi chiste en Huipine o Huape.
Como el canto del Chegol, levantamos nuestros puños al llamado del Kulkul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. Pues el Mapu, Ulu, Mapu se levantan en la guerra. Un pueblo fortalecido, no el recuerdo de la historia que ha construido el Cuica para borrar nuestra memoria, la cual mantenemos siempre viva y con mucha conciencia. Nuestro puño se levanta firme a la resistencia.
Guerra, cultura, justicia y libertad, nuestra lucha, vida o muerte, igual vamos a recuperar. Resistiremos este Huichana, los guerreros despertar. Somos un pueblo orgulloso, no nos van a doblegar. El camino es poderoso, de momentos dolorosos.
On va réduire un petit peu la musique là. C'est d'ailleurs un chant de résistance mapuche. Voilà. Donc je donne la parole maintenant à Janine Vidal du CSIA. Voilà, pour raccourcir le cycle.
Oui, CSIA, c'est plus court. Oui, simplement pour vous faire des petites annonces. Donc, je voudrais tout d'abord vous dire que le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques aura un stand à la fête de l'humanité, donc les 13 et 14 septembre. Nous serons juste à l'entrée de la Cité internationale, donc à côté du stand de Mumia Boujamal. Et j'espère que vous serez nombreux à venir, d'accord ou pas avec le Parti communiste, on s'en fiche. Je sais bien que nous sommes à Radio Libertaire, mais venez faire un tour à la fête de l'UMA et venez donc au stand du CSIA les 13 et 14. On aura énormément de choses, des bouquins, des CD, de l'artisanat. On vous accueillera vraiment bien. Eh ben écoute, c'est une bonne question, Fabien, et je comptais sur toi justement pour qu'on puisse avoir de l'artisanat mapuche.
On va tout faire pour avoir l'artisanat mapuche et pour la fête de l'UMA alors.
Voilà. Ça nous ferait très très plaisir.
Une raison de plus pour aller à la fête de l'UMA au stand.
Ça nous ferait très très plaisir. Hein. Je compte sur toi. Hein.
Et beaucoup d'informations aussi qu'on vous apportera.
Ah non, mais ça de toute façon, l'information c'est la base de notre travail. Donc,
on fera aussi une information sur le cas de Elena Varela, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui parce qu'on n'en avait pas le temps.
Oui,
mais
bien sûr.
Qui est toujours en prison, en isolement, et pour laquelle s'organise. Il y a déjà eu beaucoup d'ailleurs de mobilisation, de lettres envoyées à Madame Bachelet de partout d'ailleurs, et également curieusement de Reporters sans frontières, ça a été quasiment les premiers
oui.
à envoyer une lettre, étrangement, et par la suite d'autres pays. Et ça continue, et voilà.
Non, c'est sûr que pour nous, l'information est extrêmement importante. Sur le stand, il y a toujours des pétitions à signer, il y a toujours de l'information justement pour que les gens puissent prendre gratuitement, parce que, bon, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait l'artisanat, mais il faut aussi penser aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui viennent pour s'informer, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent en fait à la fête de l'UMA pour s'informer, parce que c'est une source d'information importante sur des tas de pays, notamment à la Cité internationale.
À part ça, il y a d'autres activités qui sont à venir en septembre.
Ah, oui, oui, absolument, absolument, absolument. Donc, le 19 et le 20 septembre, il y a les journées amérindiennes organisées par Amnesty et nous sommes partenaires d'Amnesty pour l'organisation de ces journées. Donc, c'est en fait un festival de films sur deux jours. Pardon. Donc je vais dire rapidement, donc ces journées amérindiennes ont lieu c'est toi le chien. Donc ces journées amérindiennes ont lieu au théâtre municipal de Neuilly. Ce sont des festivals. Alors le vendredi, il y aura le sang de la terre qui est le combat des Uwa de Colombie. Il y aura Sipakapa no Sevende qui est un film sur le problème des droits autochtones au Guatemala. Le samedi, il y a Voyage en mémoire indienne du Canada, qui est un film sur le problème des enfants qui ont été placés dans des familles, qui ont été retirés à leur famille plutôt, et placés dans des foyers. Radio Namda du Mexique. Il y aura, alors, concernant les Mapuche, le film Entretien avec José Wenchunao. Il y aura Regard vers l'intérieur, militarisation au Guerrero du Mexique, Soy el defensor de la selva, Sarayaku, Équateur, et Nous luttons mais nous mangeons des fruits pour le Brésil. Donc, il y aura entre-temps des tables rondes avec un certain nombre de personnalités, et il y aura également d'autres associations qui tiendront des stands d'information. Donc ça, c'est sur deux jours, le 19 et le 20 septembre, au théâtre municipal de Neuilly. Le 11 octobre, ce sont les 30 ans du comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. Donc, c'est quelque chose de très très important pour nous. C'est à Bobigny, à la salle Pablo Neruda. D'ici là, on vous en reparlera. Donc, c'est notre grande journée annuelle de solidarité de 14h à 22h à Bobigny, à la salle Pablo Neruda. Nous aurons cette année pas mal de représentants autochtones parce que ben, pour les 30 ans, on fait un gros effort financier, je dirais. Donc, on aura un représentant ou deux représentants du Canada, donc Canadien. On aura la fille de Léonard Pelletier. Et Léonard Pelletier, pour nous, c'est... bon, il a été reconnu prisonnier politique par Amnesty International. Et Léonard Pelletier, depuis la sortie de Mandela de prison, c'est le plus vieux prisonnier politique au monde. Et donc, c'est une lutte qui est très, très emblématique pour le CSIA. Il y aura un représentant du Mexique qui est quelqu'un qui lutte depuis très très longtemps. Il y aura Félix Tuca de la Guyane. Il y aura Okan Wekaman pour le Chili. Il y aura beaucoup de représentants amérindiens et voilà. Et j'espère que vous viendrez très nombreux parce que nous, on commémore 30 années de lutte amérindienne que l'on a suivie, 30 années de solidarité, 30 années de combat, 30 années de difficultés, d'un peu de découragement, mais aussi de victoire. Et le lendemain, on fait une petite fête intime pour nos délégués, pour les associations partenaires, donc bien évidemment Terre et Liberté pour Arauco. Et ben, je m'arrête à octobre.
Hein. Très bien, c'est parfait.
Voilà.
Bien. On a encore un petit peu de temps parce que l'émission suivante vient de m'appeler pour me dire qu'on a encore, si on a des informations, quelques... Bon, en profiter un petit peu. Voilà. Si vous avez d'autres... Sujet.
Oui, il y a, des informations diverses sur l'Amérique latine, mais sur le Chili qu'on n'a pas touché, même les au Mapuche, des choses qu'il y a. Mais par exemple, en Argentine.
Moi, je voulais poser une question, justement.
À Manuel.
À Manuel.
Vas-y.
Parce que, malheureusement, très souvent, les dirigeants Mapuche comme Manuel, qui ont, qui luttent pour la cause Mapuche, ont de gros, les communautés sont persécutées, ils ont des gros problèmes. Donc, je voudrais savoir comment ça se passe. Je voudrais savoir comment ça se passe. Je voudrais savoir si, par hasard, parce que des fois ça aide, le fait qu'il soit allé à l'ONU, qu'il soit allé à Genève, entre guillemets, ça le protège un peu. Est-ce qu'il y a une pression de la part de l'État chilien du fait qu'il a fait toutes ces dénonciations? Sur lui, sur sa communauté, hein, sur les communautés concernées.
Es una pregunta.
Sí.
Bueno, esperamos que así no ocurra, porque hemos hablado con algunas autoridades y en Chile respecto de que es necesario que se nos escuche en cuanto a lo que demandamos. Y ellos dicen que sí, van a, se interesan por el problema y que van a buscar soluciones. Así que espero en mi caso no ocurra, como le ha ocurrido a otros hermanos, sí, que han recibido fuerte represión. Pero también eso lo entendemos porque sean los gobiernos de derecha o de izquierda en nuestro país, siempre la historia del pueblo mapuche es igual, reprimido. Es una acción violenta que se ejerce sobre nuestras comunidades, sobre nuestros pueblos desde el descubrimiento de América. Inclusive quizás los españoles fueron más decentes con nosotros porque respetaron nuestra nación, respetaron tratados,
los parlamentos,
claro, respetaron nuestra frontera. Sin embargo, el Estado chileno nos violentó con una guerra que era desigual, nos invadió en realidad, cometió genocidio, fue un crimen contra la humanidad, en contra de un pueblo pacífico, que no estaba en iguales condiciones para luchar, usó por nuestras tierras, y eso nos sigue ocurriendo de alguna u otra forma. Vivimos en permanente agresión por parte del Estado, y aún sobrevivimos, y pese a todo.
Pero hasta el momento tú no has tenido problemas.
No, yo personalmente no.
Hay que recordar que lo que se pasó reciente con la comunidad de Temuicuicui, que particularmente afectada por los allanamientos.
Il y a personne qui veut avoir la traduction ici.
Pardon. j'ai oublié. Ah non,
si tout le monde comprend l'espagnol, c'est bon.
Surtout mon espagnol.
Non, bon, Manuel disait que qu'il espérait qu'il n'avait pas dû arriver des problèmes comme il arrivait à d'autres personnes qui ont été en effet victimes de la répression, et notamment des personnes qui étaient venues en Europe et aux Nations Unies. On peut se rappeler. J'ouvre une parenthèse, mais José Wenchunao est allé notamment aux Nations Unies il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, il est en prison, condamné à 10 années de prison. Voilà. Dans le
Juan
cas de...
Juan Pinchun, qu'on avait reçu, qui est en Argentine maintenant.
C'est son frère qui est en Argentine.
C'est son frère,
ouais. Son père qui est en prison et son frère qui... Bon, Juan a eu quand même des problèmes aussi
avec
la justice. Pedro Cayuqueo a eu des problèmes avec la justice. Enfin... Donc, dans le cas de Manuel, il disait qu'il avait discuté avec des autorités avant de partir et encore une fois, elles avaient dit qu'elles étaient vraiment intéressées pour que ces conflits se règlent. Donc, il espère qu'elles agissent pas de façon, en réprimant. Mais c'est vrai, il remarque que c'est vrai que ça soit un gouvernement de droite on va pas dire de gauche ou les gouvernements actuels. Il y a toujours eu une histoire de répression envers les Mapuche et il remarque même que les Espagnols à l'époque de la colonisation espagnole avaient été plus respectueux avec les Mapuche puisqu'ils avaient les Espagnols avaient fait avec les Mapuche des traités, des pactes, des parlamentos où il y avait une reconnaissance d'une nation Mapuche, d'un peuple Mapuche et de frontières avec une certaine forme d'autogouvernement. Et l'État chilien est arrivé et n'a pas du tout respecté ses accords, a envahi le territoire mapuche. Manuel parle de génocide, qu'il y a eu un génocide, un crime contre l'humanité, contre les mapuches, contre un peuple qui était pacifique. L'État chilien a usurpé les terres. A exercé donc une violence contre les Mapuches. D'une certaine façon, que ce soit cette usurpation de terre ou cette violence, elle continue à perdurer jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu mes notes. je pense que
c'est une constante évolution.
Je m'étais arrêté là. Je pense que avait terminé là. Donc il y a en effet une agression qui continue et qui continue jusqu'à aujourd'hui.
A changé de forme, mais ça continue.
Et c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est que le peuple Mapuche, la nation Mapuche, est vraiment la seule qui a réussi à tenir tête aux Espagnols et à signer des traités avec les Espagnols. C'est vraiment les seuls par rapport aux Espagnols.
Bon, et quelques informations de territoire Mapuche, dès qu'on parle de Mapuche aujourd'hui, assez intéressantes. Mapuche Press, c'est l'informative Mapuche qui arrive de Chili, avec des bonnes documentations. Nous informons que Luis Meñaco, qui il y a quelques mois il a été mis en prison de nouveau, encore, et la communauté Mapuche du secteur de Yeouyeu, de Arauco, pour ressortir la liberté. Mais il doit payer une amende de 450 000 pesos chiliens. C'est à peu près.
400 000 pesos.
C'est à peu près, je pense, 600 euros, 700 euros.
Ouais.
700 euros. Voilà, pour pouvoir sortir à l'IOT.
Manuel disait que qu'il espérait qu'il n'avait pas dû arriver des problèmes comme il est arrivé à d'autres personnes qui ont été en effet victimes de la répression, notamment des personnes qui étaient venues en Europe et aux Nations Unies. On peut se rappeler, j'ouvre une parenthèse, mais José Wenchunao est allé notamment aux Nations Unies il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, il est en prison, condamné à 10 années de prison. Voilà. Dans le
Juan
cas de
Pinchun, qu'on avait reçu, qui est en Argentine maintenant.
C'est son frère qui est en Argentine.
C'est son frère.
Son, frère. Oui. Son père qui est en prison et son frère qui. Juan a eu quand même des problèmes aussi
avec
la justice.
Aussi.
Pedro Cayuqueo a eu des problèmes avec la justice. Enfin. Dans le cas de Manuel, il disait qu'il avait discuté avec des autorités avant de partir et encore une fois, elles avaient dit qu'elles étaient vraiment intéressées pour que ces conflits se règlent. Donc, il espère qu'elles agissent pas de façon, en réprimant. Mais c'est vrai, il remarque que c'est vrai que ça soit un gouvernement de droite on va pas dire de gauche ou les gouvernements actuels. Il y a toujours eu une histoire de répression envers les Mapuches. Et il remarque même que les Espagnols, à l'époque de la colonisation espagnole, eh ben, avaient été plus respectueux avec les Mapuches, puisqu'ils avaient, les Espagnols avaient fait avec les Mapuches des traités, des pactes, des parlamentos, où il y avait une reconnaissance d'une nation Mapuche, d'un peuple Mapuche, et de frontières avec une certaine forme d'autogouvernement. Et l'État chilien est arrivé et n'a pas du tout respecté ces accords, a envahi le territoire Mapuche. Manuel parle de génocide, qu'il y a eu un génocide, un crime contre l'humanité, contre les Mapuches, contre un peuple qui était pacifique. L'État chilien a usurpé les terres, a exercé donc une violence contre les Mapuches. D'une certaine façon, que ce soit cette usurpation de terre ou cette violence, elle continue à perdurer jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai perdu mes notes. je pense que
c'est une constante évolution.
Je m'étais arrêté là. Je pense que si il avait terminé là, après, ça allait continuer. Donc il y a en effet une agression qui continue et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Hein.
A changé de forme, mais ça continue.
Et c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est que le peuple Mapuche, la nation Mapuche, est vraiment la seule qui a réussi à tenir tête aux Espagnols et à signer des traités avec les Espagnols. C'est vraiment les seuls par rapport aux Espagnols.
Bon, et quelques informations de territoire Mapuche, dès qu'on parle de Mapuche aujourd'hui, assez intéressantes. Mapuche Prest, c'est l'informative Mapuche qui arrive de Chili, avec des bonnes documentations, nous informe que Luis Meñaco, qui il y a quelques mois il a été mis en prison de nouveau, encore, et il a commenté par Falcogna, du secteur de Yeugeu, de Arauco, pour ressortir la liberté. Il doit payer une amende de 450 000 pesos chiliens. C'est à peu près.
400 000 pesos.
C'est à peu près, je pense, 600 euros, 700 euros. Ouais. 700 euros. Voilà, pour pouvoir sortir à liberté. Et c'est un peso politique Mapuche qui a été mis. Il est actuellement dans la prison de Lebu. Le procès. Il sera suivi et il doit rendre compte, il doit se présenter au tribunal plus tard. Voilà, et pour autre part, il y a les pichés politiques Mapuche, les pichés d'Onoso et Marian. Ils sont actuellement dans la prison de Lebu, en attente de la date de ce jugement. On confirme qu'il existe un territoire Mapuche a produit l'intervention des différents organismes des droits de l'homme qui exigent le respect des droits des peuples indigènes en Bolivie. Ça, c'est un problème qui se passe en Bolivie. L'entreprise Mankeli, société d'anonymie, a opéré dans le territoire bolivien sans aucun respect pour les conditions juridiques, les éléments juridiques qui existent nationales en matière de droits des peuples indigènes, complètement en violant les conventions 169 de l'AET et la Déclaration des Nations Unies, le même cas que le Chili, qu'on parlait tout à l'heure. Mais donc, actuellement, l'Association des droits de l'homme, ils sont demandés au gouvernement d'empêcher l'empresa de fonctionner pendant qu'elle ne soit pas respectée les revendications de ces populations indigènes en Bolivie. On continue l'information dans la Forestal Cautín, propriétaire de beaucoup de territoires forestiers actuellement, et la communauté de Ticauque vient d'intervenir pour faire une récupération de terres, et bien sûr que la Forestal Cautín. Elle est aussi liée à la Forestal Mininco. La terre, il y a une demande de 20% de total de la del territoire de tous ces forestiers. Donc 20% c'est la demande. On ne dit pas la quantité d'hectares, mais elle doit être importante. Bon. Et
on pourrait donner une précision par rapport à cette nouvelle là, enfin que cette communauté de Tricauco est, c'est bien la communauté Tricauco, hein, c'est ça.
C'est
une communauté aussi qui est assez mythique dans les luttes, dans les conflits territoriaux, parce que c'est l'une des communautés qui revendiquait notamment le fond Poluco Pidenco, qui est un procès, c'est là où il y a plusieurs personnes qui sont condamnées par l'antiterroriste à 10 ans pour un incendie terroriste. C'est une propriété donc de la Foresta al Minico qui avait été incendié en 2001, qui était revendiqué par des personnes, et aujourd'hui José Wenchunao ou d'autres personnes ont été condamnées. Il y a Mireia Figueroa qui fait partie de cette communauté, qui était dirigeante de la communauté Tricauco, qui aujourd'hui risque 10 ans de prison et est dans la clandestinité depuis maintenant 3 ans. Ce qu'il faut dire, que c'est Myriam n'est pas une femme jeune, elle avait même des problèmes de santé et elle a assumé cette clandestinité, ce qui ne doit pas être facile à mon avis pour elle tous les jours. Donc enfin, je voulais quand même préciser, parce que depuis le début on explique que tous ces conflits ont une histoire, ce que explique aussi Manuel à travers les conflits environnementaux, c'est qu'il y a une histoire aussi, c'est longues histoires, même si aujourd'hui ça prend une visibilité, c'est des luttes qui datent depuis longtemps, qui a fait ses victimes aussi, et c'est pas des choses qui apparaissent comme ça du jour au lendemain ou parce que il y a les possibilités de voyage ou des choses comme ça, mais c'est vraiment des luttes qui s'inscrivent dans l'histoire et qui ont pris de la visibilité ces dernières années, et qu'il est enfin je pense que bon c'est important de le signaler, des problèmes qui sont pas résolus quoi malgré le nombre des années passé.
Au fond, l'information précise, c'est que la communauté de Cauco, elle a fini pour recevoir 20% de territoire qu'elle demandait. Donc, une partie des territoires qui était la Foresta al Minico, le groupe Mate, aujourd'hui, la mafia économique et nationale, a été lundi à Tikoko. Mm-hmm. Donc, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, et puis ça montre que les entreprises forestières ne sont pas si méchantes. Hein. je provoque des choses, je suis choqué ou pas. Non, mais enfin, on voit quand même que des fois, on arrive aussi à récupérer. Fruit d'une grosse lutte et de violence et de souffrance, on arrive à récupérer des choses, quoi. Mais à quel prix, encore une fois, il y a des gens de cette communauté qui...
À quel prix pour aussi payer des avocats, ouais. Payer... il y a tout un poids.
Ouais.
Oui, c'est...
Mais donc il faut encore signaler qu'il y a des gens qui sont pour avoir lutté pour ces terres, qui sont au moins dans le clandestiné. Je ne sais pas si dans les gens qui sont Wenulao aussi, Juan Carlos Wenulao.
5 personnes
Disons qu'ils sont de différents. Enfin, il y en a plusieurs qui sont en prison pour ce conflit-là, mais ils ne sont pas tous de cette communauté-là, parce que c'était deux communautés qui étaient en conflit, Tricauco et la communauté de José Guignon. Les gens qui de cette communauté, il y a Juan Carlos Wenulao qui est de cette communauté, qui est en prison, condamné à 10 années, et sinon les autres c'est des dirigeants qui n'étaient pas de cette communauté là.
Donc c'est pas gratuit la récupération des terres, ouais. Hein, ça coûte du sang, même la vie des gens, et des prisons. Bon, voilà, l'information dit que, pour finir l'information, que ce territoire qui actuellement occupe les forestales, se sont été acquis sous la loi de la dictature de Pinochet. Et avec l'expulsion de la communauté mapuche qui était à l'époque. Voilà. Bon, voilà, je pense que...
Il faudrait peut-être rappeler qu'il y a quand même, d'après... un rapport récent qui a été fait très très bien par une journaliste qui s'appelle Lucia Sepulveda Ruiz, une journaliste chilienne. D'ailleurs, on peut trouver dans le site www.periodismosanador.blogspot.com. Ce rapport qui indique qu'il y a plus de 55 cas de prison politique de prisonniers politiques mapuche au Chili. Pardon?
Non, et une dernière information avant de finir. C'est que, bon, à Temuco, il y avait plusieurs organisations des droits de l'homme, dans lesquelles il y avait l'Observatoire des droits de l'homme, l'indigène, pardon, qui vient de se unir avec Codepou et l'Association américaine des juristes, et se sont unifiés pour créer une nouvelle organisation. Et qui s'appellera Observatoire Citoyen. Ça a été passé le 4 juillet dernier à la ville de Temuco. Il y a un groupe de professionnels de trois organismes qui sont installés pour organiser un programme en trois volets, globalisation, droits de l'homme, et citoyenneté, dans lesquelles on apparaît la interculturalité et aussi l'Observatoire des droits des peuples indigènes. Donc, la création de cette organisation nouvelle des droits de l'homme au Chili, elle précise que ce sont organisés pour contribuer à la transformation de la société chilienne, faire respecter les droits sociaux, culturels et rétablir l'antifascisme au Chili et surtout dans la région de la population où il y a la population indigène et exiger une promotion active de la citoyenneté et permettre aussi la pression de tous les peuples qui composent la société chilienne, aussi donner la voix à la communauté locale et surtout faire respecter les droits humains dans tous les contextes de diversité qui existe au Chili. Voilà. C'est l'Observatoire citoyen au Chili. Je répète, il y a trois organisations qui le composent. C'est l'Association américaine des juristes, CODEPU, une ancienne organisation de l'homme avant de pédier la dictature, et l'Observatoire des droits indigènes à la ville de Temuco. Voilà, c'est la dernière information. Je pense que cette émission peut-être attitée à l'étranger.
Non, on m'a demandé seulement de rappeler l'adresse d'un site internet sur les Mapuches en français que voilà. Je conseille la lecture à tous.
Absolument.
Qui s'appelle...
Tu prêches une convaincue.
Au cas où, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le mapuche.free.fr, donc http://, on met pas EW, on met directement mapuche, mapuche, .free.fr. Et il est vrai qu'il n'est pas, enfin bon, en ce moment il n'est pas mis beaucoup à jour, enfin il est quand même mis chaque semaine à jour, mais c'est quelques nouvelles, mais bientôt il y aura notamment la campagne là qui est en train de se mettre en place ici, enfin qui est en train de se relayer ici, qui est la campagne pour la libération de Elena Varela. Il y a des informations, vous entendez, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, on n'a pas eu le temps d'en parler vraiment aujourd'hui, mais il y a déjà des informations sur la situation de Elena Varela qui est en prison depuis maintenant trois mois à Rancagua au Chili pour avoir voulu rendre compte de la réalité des communautés, de la répression qu'il y avait et qui vraiment, enfin c'est vraiment un montage, mais à la vieux de la vieille, on pourrait croire que c'était d'un autre temps et pourtant ça se pratique encore aujourd'hui au Chili. Donc je vous conseille la lecture de mapuche.free.fr. Bientôt vous pourrez aller signer une pétition et l'envoyer, peut-être même on est en train d'en discuter, voir si on peut mettre une pétition en ligne.
Elena Varela, il faut rappeler que c'est une cinéaste. En fait, elle a beaucoup de titres d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est professeur de musique, qui a eu de longues activités de communication audiovisuelle. Elle a fait pas mal de reportages. Donc elle est très connue professionnellement et tout d'un coup, c'est tombé comme un coup près. alors qu'elle était en train de filmer, elle a été arrêtée, et, ainsi que son équipe, et tout son matériel a été confisqué. Donc, pour avoir plus de détails, vous verrez le site de, qu'on vient de vous donner.
Mais je pense que, enfin, de ce que je peux voir de l'extérieur, de toutes les nouvelles qui arrivent, que ce soit des communautés, ou je pense que la situation empire au Chili, c'est-à-dire que on s'en prenait uniquement Mapuche, et maintenant on s'en prend de toute façon aux gens qui les soutiennent, que ce soit les étrangers, puisque il y a eu deux Français qui ont eu des problèmes, il y a deux Italiens qui ont été expulsés, que ce soit les Chiliens. Alors le cas d'Elena est particulièrement symptomatique parce que c'est quelqu'un qui est quand même très connu, qui a un travail, qui travaille depuis longtemps, qui est très connu, etc. Mais les gens, lors des manifestations des Mapuches, les Chiliens qui appuient, il y en a pas beaucoup, mais les Chiliens qui appuient la cause Mapuche ont des tas de problèmes avec la police, et pour moi c'est significatif, c'est symptomatique d'une aggravation de la situation, le fait que maintenant on s'attaque aux personnes qui soutiennent la cause Mapuche.
Ce qui est, pour finir un peu sur le sujet, qui est grave, que il y a une, il s'en développe et s'est établi l'image à l'extérieur du pays de que Chili, il y a un gouvernement démocratique qui respecte toutes les lois, etc. Et constamment, on reçoit d'informations, comme tu viens de le rappeler, 12 jeunes Français sont été mis en arrestation pendant une vingtaine d'heures, ces matériaux ont été confisqués et après, une ordre d'expulsion du pays. Deux jeunes cinéastes aussi italiens, dans les mois de mai, se sont approchés au Mapuche pour filmer leur vie, leur conflit, etc. sont été arrêtés et aussi expulsés du pays pour le ministère de l'Intérieur chilien. Ce ministère, théoriquement, ce ministère qui appartient à un gouvernement théoriquement démocratique. Et une cinéaste très connue, comme vient de dire, Elena Varela, sa maison a été perquisitionnée.
Tout son matériel a été pris.
Tout son matériel de travail et son matériel qu'il a accumulé pendant des années, elle a été confisquée. Disons, il a une séquestration de matériel de la Varela. Il a été mis en prison, en prison préventive, parce que Chili, la VR-Col pouvait n'exister plus au Chili, hein, dans laquelle, en 48 heures, les juges devaient examiner les cas et déterminer si la personne avait des raisons d'être inculpée. On l'a inculpée et après, on lui a donné la date pour qu'elle vienne pour être jugée. Que ça, c'est la logique. Mais en Chili, non. Il y a la modification de la loi pinochetiste qui la utilise, dans laquelle les personnes peuvent être 3 mois, 6 mois, un an et demi, en prison préventive. Même si après on le dit, on s'excuse, mais on n'a rien contre toi. Mais la personne a perdu un an de sa vie, comme ça, les cas des deux ou trois, Peñi Mapuche. Bon, donc, ça, c'est la réalité chilienne. Malheureusement, il faut la répéter tous les jours, constamment, où on y va pour qu'il y ait une certaine conscience dans les Français ici et ailleurs, de qu'au Chili, il n'y a pas de démocratie.
Ça, c'est quelque chose.
Un système totalitaire avec un visage démocratique à l'extérieur, qui rappelle beaucoup le comportement de ces gouvernements des membres Bachelet, les noirs période de la dictature militaire, dans laquelle aucune manifestation de la société civile peut s'exprimer sans avoir la répression dans les dents.
Ça, c'est quelque chose qui est un message qui est très difficile, effectivement, à faire passer ici en Europe, parce que pour tout le monde, effectivement, le Chili est une démocratie, mais c'est la même chose, par exemple, pour le Brésil, où le président Lula est un ancien ouvrier, est un syndicaliste, etc., et où la situation des Indiens du Brésil n'a jamais été aussi pire que sous la présidence de Lula. Donc, et là, c'est difficile aussi de faire passer le message, parce que bon, Lula, il a une image de syndicaliste, de pratiquement d'extrême gauche.
Non, Lula, il a été toujours au début élu sous le soutien de l'extrême droite brésilienne.
Nous, on le sait, mais c'est difficile à faire passer le message dans la société française.
Tout le monde le sait, parce que ça a été signé un accord public avant les élections, il y a des déclarations de fait, et le plus gros groupe de la droite, même extrême droite brésilienne, a soutenu la candidature.
Mais tu as tout à fait raison, Nestor. Mais la majorité des Français qui ne suit pas au jour le jour la situation n'est pas au courant de ça.
Oui, mais il faut s'informer. Le cas, c'est pas pareil. Je pense que pour le Chili, est beaucoup plus grave.
D'accord.
Il n'y a eu aucun accord avec la droite, il y a eu des promesses de changement. Ils n'ont pas été faites.
D'accord.
Bon, voilà. Et
une bonne soirée à nos auditeurs.
Une bonne soirée à nos auditeurs. Merci pour votre patience. Et c'est là, en 15 jours, à Radio Libertaire, toujours, Tribune latino-américaine des informations d'Amérique latine, de Saint-Étienne, aussi un pot de bardage. Pour faire l'émission un peu plus gay. Ouais. Bonsoir.